Au menu de notre club cet après-midi, les insectes de la maison, la vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste Asperger et un dictionnaire biographique des scientifiques français. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la plus longue piste de traces de dinosaures sauropodes au monde.
Oui Mathieu, et elle est en France, à Plagne, dans l'Ain. Il aura fallu 3 ans aux scientifiques pour dégager les 110 traces de pas qui la composent. On remonte la piste du Titanosaurus avec le paléontologue Jean-Michel Mazin.
Et c'est Marion Lelay qui réalise notre club aujourd'hui, préparé par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue mes invités du club, Julia March, Jean-Pierre Poirier et François Lasserre. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue François Lasserre, vous publiez Les petites bêtes de la maison et de la chambre. C'est aux éditions La Salamandre. Nous sommes cernés de toutes parts avec ces bestioles, François Lasserre.
Oui, comme on est un peu inquiet, il y a un sous-titre, il s'agit de 50 antisèches pour parents en détresse.
Voilà, et pour nous rassurer donc en l'occurrence.
Et complètement, pour se détendre.
Il faut apprendre à vivre et à cohabiter avec ces bêtes que vous aimez tant. Julia March, vous êtes autiste Asperger, vous publiez La fille pas sympa, c'est la vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste chez Céramis, c'est donc votre témoignage. Et c'est très précieux parce que finalement on entend souvent et beaucoup plus les garçons autistes Asperger s'exprimer.
Oui, c'est vrai. Même au niveau des productions de séries ou des films, les protagonistes sont souvent des garçons.
Ouais, ils sont beaucoup plus nombreux que les filles d'ailleurs dans les faits ou pas ?
Non, c'est juste que les filles sont sous-diagnostiquées.
Ouais, on va en parler avec vous dans un instant. Et puis on va évoquer ces grands noms de la science avec vous Jean-Pierre Poirier, puisque vous publiez ce dictionnaire biographique des scientifiques français, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et donc ce sont ces noms que vous avez réunis depuis l'an 1000, quel travail !
En effet, qui a duré 6 ans.
Ouais.
Mais c'est venu du fait qu'il n'existait en France depuis le 19e siècle plus aucun recensement à jour des biographies de scientifiques.
Ouais.
Donc il me semblait qu'il y avait là une lacune à combler, un patrimoine à défendre et des sources d'inspiration pour les plus jeunes.
Voilà, depuis Gerbert d'Aurillac, Sylvestre II, on dira qui il est, jusqu'à Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Ce sera l'objet donc de cette discussion. On se retrouve ensemble dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent bien sûr pour réagir à tous ces sujets sur franceinter.fr. Et nous marchons dans les traces des dinosaures géants aujourd'hui à la une de la science.
Wow ! Regardez ces empreintes ! Il y en a au moins des centaines !
Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici. Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau. Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformés en pierre.
Ah, d'accord.
Et c'est en 2009, en l'occurrence, que des membres de la société naturaliste de Yonax découvrent la première empreinte de pas géante près de la commune de Plagne, dans le Jura. Et s'en sont suivies 8 années de travaux scientifiques avec des fouilles, des mesures, du dégagement pour mettre au jour donc la plus longue piste de dinosaures sauropodes jamais découverte. Elle s'étale sur 155 mètres. Et c'est une publication d'envergure à bien des égards, Axel, dont on discute avec notre invité.
Oui Mathieu, on est en ligne avec Jean-Michel Mazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez dirigé cette grande et longue campagne de fouilles. Alors, 110 traces de pas sur 155 mètres, ça fait des grandes enjambées. Quelle taille faisait ce dinosaure ?
Alors, les évaluations nous amènent vers 35 mètres de longueur à peu près. Hein.
Ah oui, quand même.
Et oui, une bonne quarantaine de tonnes. Et
ça, est-ce que vous lui avez donné un nom ? Est-ce que vous avez déterminé quel dinosaure ?
Alors oui, c'est un dinosaure sauropode, donc ces fameux géants à long cou. Et parmi les dinosaures sauropodes, c'est plutôt un dinosaure titanosauroïde, c'est-à-dire qui évoque déjà ce que seront les titanosaures de la fin du Crétacé, quelques millions d'années plus tard.
Donc il marchait bien sur 4 pattes.
Ah, il marchait sur 4 pattes sans aucun problème. On a les traces des pieds, des mains, c'est superbe, c'est merveilleux. Avec la trace des doigts, enfin, c'est d'une grande finesse pour des bêtes aussi grosses que ça.
Oui, vous parlez des pieds et des mains, d'ailleurs, Jean-Michel Mazin, pour les dinosaures ?
Oui, anatomiquement, le mot pes, latin pour le pied, le mot manus pour la main, sont utilisés scientifiquement. Alors, on pourrait dire patte avant, patte arrière, c'est sûr. C'est peut-être plus facile à comprendre, mais on parle des pieds et des mains.
D'accord.
Alors en 2009, vous avez trouvé la première empreinte. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant 8 ans pour que vous arriviez à cette grande publication aujourd'hui ? Quelle a été la plus grande partie du travail ?
Alors il y a déjà eu 3 années de suite des fouilles. des grosses fouilles avec une quarantaine d'étudiants. Il fallait réunir une équipe qui soit à la dimension de la bête et de l'objectif. Donc il y a eu 3 années de fouilles et ensuite il y a eu encore 2 à 3 années d'études complémentaires, c'est-à-dire d'études sur l'anatomie des pieds et des mains justement, d'études géologiques. Mes deux collègues, mes deux co-auteurs sont deux géologues, donc qui se sont attachés à préciser l'environnement dans lequel ces pistes se sont réalisées. Et donc nous avons lancé la rédaction du papier au bout de 6 ans et le délai d'un an pour la sortie d'une publication est un délai raisonnable.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre au jour ces traces? Elles sont sous beaucoup de matière, beaucoup de terre, beaucoup de pierres?
Alors il se passe qu'une bonne partie de ces empreintes affleurent sur ce grand plateau jurassien. C'est superbe, le paysage est merveilleux d'ailleurs. Et certaines affleurent, certaines sont, disons, en cours d'érosion, tout simplement. Et on arrive à les voir, c'est comme ça qu'elles ont été découvertes, soit sur des chemins, soit sous la prairie elle-même, la végétation, l'herbe de la prairie. Mais il y a des zones latéralement où ces pistes sont encore protégées par un banc de 50 à 70 cm de calcaire. Et c'est là que nous sommes allés chercher les plus belles empreintes là-dessous, puisqu'elles étaient protégées, pas du tout érodées. Elles étaient superbes. Donc le plus gros travail de fouille à proprement parler a été ça, de descendre ces 50 cm de calcaire très dur pour aller chercher les empreintes dessous.
Jean-Michel Mazin, on est à quelle période exactement avec ces sauropodes géants là?
Alors on est exactement à moins 150 millions d'années, c'est-à-dire au Titonien inférieur, à la fin du Jurassique.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les plus belles de ces empreintes? À quoi elles ressemblent alors?
Alors les mains ressemblent un peu à un trèfle à 5 feuilles, c'est très joli, avec 5 doigts ronds qui sont alignés en couronne. Les pieds, eux, sont beaucoup plus longs, mesurent 1 mètre de longueur à peu près. Ça fait une belle pointure, hein. Et donc il y a également 5 doigts, mais qui là sont beaucoup plus ovoïdes, plus allongés. En fait, il faut bien voir que ces animaux marchaient sur la pointe des doigts à l'avant. Pour des bêtes de 40 ou 50 tonnes, c'est toujours étonnant, mais mécaniquement c'est le plus efficace, c'est-à-dire une digitigradie totale, comme une danseuse sur ses pointes. Et à l'arrière, les pieds sont un peu allongé avec un talon et tout, mais relevé au niveau du talon et appuyant sur une grosse masse, un gros coussin de tissu conjonctif, un petit peu comme chez les éléphants aujourd'hui. Et c'est un bon moyen d'absorber les contraintes liées au poids, liées à la masse de l'animal et d'éviter ainsi que les chevilles n'explosent littéralement sous la masse.
Vous avez été capable de calculer la vitesse de déplacement ?
Oui, nous disposons d'équations qui fonctionnent très bien et on a pu l'évaluer à environ 4 km/h.
C'est la vitesse de marche d'un humain, ça veut dire que quand vous suivez la piste, vous avez l'impression de marcher avec le dinosaure alors ?
Exactement, c'est-à-dire cette piste en fait représente 3 minutes et demie à peu près d'activité d'un animal. Et c'est très, très étonnant en paléontologie où l'on récupère, on récolte en général des animaux morts et pétrifiés. Là, on a plutôt une espèce de film de 3 minutes et demie de la vie de cet animal. Il tourne à un moment pour échapper à une zone un petit peu boueuse, puis il accélère en fin de parcours. Enfin, c'est vivant.
C'est une marche assez lente quand même, Jean-Michel Mazin. Est-ce que c'était, selon vous, la marche habituelle d'un sauropode ou là, précisément, celle qui a été figée dans la Terre, hein?
D'une manière générale, toutes les pistes de sauropodes qu'on trouve dans le monde sont aux alentours de 3 à 5 km heure, rarement plus. Il faut quand même les déplacer 40 tonnes ou 50 tonnes, c'est quand même, ça dépense beaucoup d'énergie, donc ces animaux, effectivement, étaient, pour ce qu'on en sait, relativement lents, mais lents par rapport à ce qu'ils sont. 4 km/h, ça a l'air d'être une sorte de vitesse de croisière.
Est-ce que vous avez trouvé d'autres traces, d'autres dinosaures, d'autres animaux?
Alors oui, en fouillant, en exhumant cette piste-là qui fait donc plus de 150 mètres de long, on a trouvé, croisant cette piste, des pistes de dinosaures théropodes à 3 doigts, des dinosaures carnivores. Et ça, c'est assez courant dans tous les sites du monde où l'on trouve des empreintes de sauropodes, pratiquement tous. Il y a toujours des petits carnivores qui les accompagnent. Alors la raison profonde, on l'ignore, mais c'est une observation classique. Alors est-ce qu'ils étaient là à guetter la moindre défaillance d'un énorme garde-manger, c'est pas impossible, mais il n'était de toute évidence pas capable d'attaquer physiquement des masses aussi imposantes de 40 ou 50 tonnes, mais peut-être était-il à l'affût constamment. En tout cas, c'est quasiment une constante.
Et parce que ces grands sauropodes étaient végétariens, eux, Jean-Michel Mazin, hein ?
Tout à fait végétarien, parce qu'on en sait. Ils mangeaient que des végétaux et avalaient absolument tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage.
Et justement, vous parliez de l'environnement. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où ils se trouvaient ?
Alors là où ils ont marché, c'est un fond de lagune, c'est-à-dire une zone qui est atteinte, si on est sur le littoral, des zones qui sont atteintes par des très grandes marées, hein, ce qui explique probablement que après une très grande marée, la boue déposée soit encore un peu meuble, que l'animal ait laissé ses empreintes, et qu'ensuite, en attendant les prochaines grandes marées, plusieurs mois après, ces empreintes ont séché au soleil, et puis ont fini par être couvertes et protégées.
Voilà, parce que le Jura, à l'époque, était sous l'eau. Il faisait très beau et très chaud. Merci beaucoup, Jean-Michel Mazin, pour ces observations avec cette piste de dinosaures. Et puis, Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle exoplanète dans le giron des astronomes. Elle s'appelle Ross 128b, à peine plus massif que la Terre. Cette rocheuse tourne autour de sa naine rouge en seulement 10 jours. Et son attractivité tient au fait qu'elle soit tout près de nous par rapport à beaucoup d'autres exoplanètes déjà débusquées à seulement 11 années-lumière, 11 ans de voyage à la vitesse de la lumière, hein, donc inaccessible pour l'instant, mais assez proche pour l'observer en détail, son étoile avec les télescopes géants, et avoir une chance de voir son atmosphère avec la future génération d'instruments d'observation. Une prétendante supplémentaire qui, avec Proxima B, devrait à l'avenir attirer tous les regards. Et si on avait tout faux concernant le mode du sans gluten, alors que la maladie cœliaque, maladie auto-immune qui cause une véritable intolérance au gluten, touche moins d'1% de la population, près de 10% de nos concitoyens déclarent aujourd'hui mal digérer le gluten. Une étude australienne aujourd'hui montre que pour ces personnes-là, le problème n'est peut-être pas le gluten, mais le fructane, un autre sucre contenu dans le blé, mais aussi dans certains légumes. Les chercheurs ont mené des tests sur un groupe de personnes volontaires auto-déclarées intolérantes au gluten. Ils leur ont donné à l'aveugle des barres de céréales contenant soit du gluten, soit du fructane, soit aucun des deux. Et seuls les volontaires ayant consommé la barre au fructane ont déclaré des symptômes gastriques. Des recherches complémentaires permettront certainement d'en savoir plus. Et puis des corbeaux ramasseurs de mégots, voici l'idée d'une société néerlandaise qui entend bien employer les corvidés qui vivent dans nos villes pour participer à la dépollution. L'idée est très simple, les corbeaux étant des animaux très intelligents, quasiment autant que les chimpanzés, ils comprennent les notions de troc et d'échange. Les chercheurs comptent donc aménager des distributeurs de nourriture spécialement conçus pour ces oiseaux qui se verront délivrer une cacahuète en échange d'un mégot de cigarette déposé. Reste, selon les ingénieurs, à entraîner quelques oiseaux pour que le savoir se diffuse de lui-même parmi la population. Et c'est le club dans un instant. They left the city in Mars. I guess Westfield knows what I want. Feel funny if I die still heavy. So I swipe left and figured out it's a freak show. Nothing came for following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Shut us down, nothing to see. We're all living here, confused, a light somewhere we can't be. All this extra torch giving me gears, man. It's a nightmare, I'm screaming out. It's a freak show. Nothing came from following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Stuck in my corner of doubt.
tried to break free of misery, whatever meant you short board clout. All these side eyes are leaving me paralyzed. So I sit back and let it out. It's a freak show. Nothing given for looting you. So easy to see. Strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Nothing came from following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show.
Ghost Poet avec Freak Show à l'instant.
La tête au carré, le club.
C'était quelque chose de tout velu, avec de très grandes pattes.
Une cigogne.
Avec des grandes pattes qui tricotent.
Un pullover.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Voilà, en l'occurrence il s'agit d'une mygale dans le film Un Indien dans la ville, puisque dans le club cet après-midi on parle des insectes de la maison, mais également de la vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste Asperger, et puis un dictionnaire biographique des scientifiques français, avec mes invités Julia March, Jean-Pierre Poirier, et donc vous François Lasserre, vous êtes entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et l'environnement, et vous publiez Les petites bêtes de la maison et de la chambre, c'est aux éditions La Salamandre, avec des illustrations de Jean-Pour Fraise, et en mars dernier était publié Les petites bêtes qui font peur, mais pas trop. Alors dans ce nouveau livre, eh bien, vous explorez toutes les pièces de la maison, François Lasserre, pour nous emmener à la rencontre de toutes ces bêtes qui cohabitent avec nous, sans qu'on le sache forcément d'ailleurs, hein, parce qu'on les découvre parfois de façon détournée, au hasard d'une rencontre comme ça.
Oui, et heureusement pour elles d'ailleurs. Heureusement qu'elles sont cachées. D'ailleurs, elles se mettent souvent aux seuls endroits quand on évite, ou que l'aspirateur évite, parce que sinon, elles sont détruites. C'est vrai qu'on les tolère pas beaucoup, donc on fait tout pour qu'il n'y ait pas trop de bestioles chez nous.
C'est vrai. Qui habite chez qui en réalité? Est-ce que c'est nous qui habitons chez elles, ou c'est elles qui choisissent?
Alors, ça dépend de l'âge de la maison. Alors, ouais. C'est vrai qu'au départ, on va dire que c'est une maison d'Homo sapiens, d'humains. Mais au bout d'un moment, ces maisons représentent des habitats complètement adaptés à certaines espèces, et du coup, au bout d'un moment, elles sont quasiment chez elles, voire complètement chez elles, puisqu'elles ne sortent pas, ne font pas de va-et-vient avec le jardin, ou très peu, ou sauf la mouche qui va sentir quelque chose dans la cuisine, mais ensuite il va repartir butiner les fleurs.
Oui.
Mais ça me fait penser à cette araignée. Vous savez, on fait cette association, cette mauvaise association à la fin de l'été ou à l'automne. On dit, tiens, les araignées, on voit une grosse araignée se balader dans le salon, et on pense que l'araignée est rentrée, parce qu'il faisait froid. Donc, comme si elle attendait derrière la porte, vous voyez, gelée comme ça, et puis elle attend vite que vous voyez la fenêtre, et hop, elle se jette dedans.
Ouais.
Et en fait, on fait une mauvaise association, notre cerveau nous trompe. Au lieu d'associer l'araignée et le froid, il faudrait associer l'araignée avec sa maturité sexuelle. Alors, c'est pas facile à voir, mais en fait, celle qu'on voit, en général, 9 fois sur 10, c'est un garçon qui est parti chercher une femelle. En fait,
c'est vrai.
Il est sorti d'un endroit, donc de chez lui, chez vous, et il était caché quelque part.
Ah oui, c'est-à-dire que l'araignée habite à l'année chez nous, en fait.
À l'année chez vous. Et voilà. En fait, en voyant cette énorme araignée, vous pouvez pas croire que ce truc-là a évité votre vigilance.
Ouais.
Et en fait, si, mais c'est un garçon qui part, qui est enfin mûr sexuellement, parce que ça met quelques mois quand même, ces grandes araignées, et c'est en général à la fin de l'été, à l'automne. Et il se balade, alors parfois il se fait piéger dans l'évier ou dans le lavabo, et donc... Évidemment, on va pas se jeter avec une tapette et tuer un animal non humain comme ça pour le plaisir ou juste parce qu'on en a peur.
Certainement pas, bien sûr, on se permettra, mais non.
Donc, je sais que beaucoup d'auditeurs en sont au stade 1 de la bienveillance, c'est-à-dire on ne le tue pas, mais on l'attrape et on le met dehors.
Ah, c'est bien.
Mais je vous invite, puisque je viens de vous dire qu'il était chez lui, à passer au stade 2 de la bienveillance, c'est-à-dire le sortir de l'évier, le mettre juste à côté, puisqu'il est chez lui et il faudra qu'il retrouve sa toile un moment. dans laquelle ils vous capturent blatte, cloporte ou scutigère-vélos. Vous voyez ce grand mille-pattes là avec des grandes pattes qui courent partout gratuitement.
Ah oui, le stade 2, ça va être plus difficile, hein, Julia Marche, à atteindre. Hein. Je vois réagir beaucoup.
Non, non, le stade 1 de la bienveillance, c'est...
La tolérance.
Non, mais c'est, déjà, c'est déjà un stade 1, donc c'est déjà, bravo.
Je ne pense pas que je peux aller plus loin. C'est une grande arachnophobe.
C'est vrai ?
Oui.
La peur de toutes ces bêtes...
Surtout les araignées.
Oui.
Les araignées. Je ne sais pas pourquoi les araignées, et surtout qu'elles font rien de mal, mais...
Mais non, parce qu'elles ne piquent pas, elles ne mordent pas. C'est ce que vous rappelez, François Lasserre, justement, tous ces lieux communs hein, qui sont répandus de génération en génération.
Alors évidemment, c'est vrai qu'avant de vous dire laissez-la chez vous, il faut aussi rappeler que cette grande tégénaire ne va pas venir la nuit comme ça vous mordre spontanément, même si un adulte ou un ami ou un pharmacien ou un docteur vous dit le lendemain vous avez été mordu par une araignée. Les araignées ne sucent pas de sang et ne mangent pas de grands singes, donc se faire mordre par une araignée c'est infiniment rare.
Oui.
Et en tout cas, cette tégénaire-là nous évite complètement. Il y a quelques rares cas de morsures de toutes petites bêtes qu'on aurait coincées dans un pantalon, etc. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Ouais. En tout cas, bien plus que le nombre de fois où on entend chaque année quelqu'un qui nous dire « je me suis fait mordre ou piquer par une araignée ». Ça fait des millions de morsures chaque année, c'est totalement impossible.
Mais comment elle est arrivée là, cette araignée, alors ?
Alors évidemment, elle est bien rentrée dans la maison un jour.
Oui.
Alors c'est plutôt au moment où elles sont petites, elles s'émancipent, elles vont passer dans une petite fissure ou au début du printemps où là effectivement les portes sont plus souvent ouvertes. Mais le plus souvent ça va être avec par exemple les bûches du feu ou un vieux buffet. Parfois on regarde pas dessous mais souvent il y a une toile d'araignée qui est sous le buffet. Donc elle est rentrée avec nos meubles ou notre bois un jour ou toute seule, toute petite quand elle était toute petite. Et puis c'est parfait pour elle, c'était des bêtes adaptées à des endroits... abrité, sans vent et sans pluie.
On a une petite chanson à vous faire écouter d'ailleurs à tous ici dans ce studio et à nos amis auditeurs autour justement des insectes. Écoutez.
Vous ne supportez pas de voir la moindre bestiole, le moindre insecte ? Eh bien, cette chanson vous est spécialement dédiée.
Les petites bêtes, oui ça m'embête. Les araignées, ça me fait chier, les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche. Et les criquets, ça m'effraie. Il y a une libellule qui est entrée dans mon pull. Une coccinelle en lavant la vaisselle. Les moustiques, c'est pas chic. Les souris, j'ai pas envie. Les cafards, j'en ai marre. Les cloportes, que le diable les emporte. Les hannetons, je trouve ça con. Les papillons, c'est pas très bon. Les chenilles.
Désolé François Lasserre, hein. On va pas réhabiliter comme ça la réputation des insectes. C'était à l'instant cette chanson de François Pérusse, les 2 minutes du peuple. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce de phobie, de choses très désagréables qu'on peut ressentir avec les insectes. Hein. À tort.
Alors complètement et surtout maintenant j'insiste beaucoup sur le fait que en fait notre cerveau est très mal fait, il fait d'une mouche un éléphant, il ne retient que les anecdotes. En fait, ça nous arrive pour plein de choses dans la vie, c'est-à-dire qu'on retient uniquement l'anecdote. Et en fait, par exemple, de dire que les guêpes piquent, d'un point de vue statistique, c'est complètement faux, et mathématique, c'est complètement faux. En fait, il y a que quelques guêpes et quelques individus guêpes qui nous piquent de temps en temps. Donc, les guêpes ne sont pas piqueuses du tout. Il y a quelques guêpes qui nous piquent, mais vous voyez, en fait, on a cette propension à faire avec les insectes, ou en tout cas à utiliser des termes, une sémantique qu'on ne se permet plus avec les êtres humains. Les animaux humains, on ne va pas tous les mettre dans le même panier. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec les animaux non humains. On les met tous dans le même panier.
Ouais.
Donc évidemment, un jour, une femelle moustique, un individu moustique m'a piqué. Je ne l'aime pas celle-là, mais c'est elle, c'est pas les moustiques.
Mais quand
on
a un dessin d'abeilles, quand même, il faut s'en débarrasser, non ?
Surtout pas. Il y a même quelques associations. Je connais quelques personnes, que deux personnes, hein, qui sont là et qui vous aident à déplacer le nid, parce que les entomologistes savent très bien que les guêpes, alors si vous approchez pas du nid, si vous n'approchez pas, évidemment si le nid est là à côté de la cour d'école ou de l'endroit où jouent les enfants, évidemment on va faire quelque chose, mais si le nid ne pique personne, on ne s'en approche pas, parce que les entomologistes savent que les guêpes toute la journée, quand elles veulent se nourrir, elles vont sur les fleurs, donc elles participent à la pollinisation. Mmh. Donc les guêpes pollinisent par exemple vos carottes ou votre fenouil, voilà. Alors que les abeilles ne le font pas d'ailleurs, parce que c'est des fleurs toutes petites et les abeilles ont une langue plus longue que celle des guêpes. Et puis le reste du temps, elles chassent des proies qui vont servir à nourrir leurs larves. Leurs larves sont carnivores. Donc les chenilles, les mouches, etc. sont désinguées par les guêpes. Donc un nid de guêpes, c'est un insecticide gratuit et un groupe de pollinisateurs gratuits, etc. Et puis ça nourrit les oiseaux aussi.
Donc apprenons à les aimer, hein. Ça, c'est le grand message quand même.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça, comme on retient que les guêpes nous piquent, etc. Donc dès qu'on voit les guêpes, on va... En fait, on tue avant de réfléchir et ce serait vraiment chouette vis-à-vis de tous ces animaux qui disparaissent de plus en plus, et particulièrement les insectes, ce serait sympa qu'on réfléchisse avant de les tuer.
Ouais. Guillaume nous dit, j'ai une compagne d'ordinateur juste au coin de mon étagère, au-dessus de mon écran, et quand elle n'est pas là, je la cherche, je ne tue aucun insecte, je les relâche hors de la maison, y compris les mouches. Alors, je pense qu'il fait allusion peut-être à une araignée, je ne sais pas.
Alors, la compagne de l'ordinateur, j'imagine que c'est une araignée, si elle reste, parce que les araignées fabriquent en général, la plupart des espèces fabriquent une toile, un piège à insectes, et elle ne le quitte pas, quoi. C'est vraiment, ouais. Elle ne bouge pas. Alors que la mouche, elle a senti une odeur, elle passe, mais elle est mieux dehors.
On voit d'ailleurs dans les pays tropicaux, dans les salons, quand on va chez les gens, ils ont un cadre en bois avec une belle toile d'araignée et souvent une mygale, par exemple, au milieu, qui vit là, dans le salon. C'est assez commun, on peut voir ça.
Je ne sais pas si ce sont des mygales, parce que les mygales sont plutôt des arachnides, hein, pas des insectes, bien sûr. Mais enfin bon, elles ont trop de pattes, qui vivent dans des terriers, plutôt au sol. Celles qui font des grandes toiles, qui sont connues sous les tropiques, s'appellent des néphiles.
Alors, ça doit être ça. Voilà.
Voilà, c'est la néphile qui fait des toiles immenses. Et d'ailleurs, on a essayé de faire des vêtements en soie d'araignée parce que c'était très pratique. Et puis, on a beaucoup de mal à les élever. Mais à Madagascar, il y a eu des élevages de néphiles qui servaient à fabriquer des vêtements.
Allez, encore un extrait d'un Indien dans la ville, justement, pour poursuivre un instant sur les araignées.
Steph, il y a une énorme araignée dans l'appartement.
Je remarque ça tout de suite.
Tu la vois?
Je t'avais dit que je voulais plus la voir, cette saloperie. Allez, mais fais la foutre dans sa boîte, allez.
Elle est très dangereuse, elle a essayé de m'attaquer, tu la vois?
Oui, je m'en occupe, ma chérie. Alors, leçon numéro 1, les gens dans les appartements et les mygales dehors!
Neutiga.
Pour lui, c'est comme un animal domestique.
Ça, c'est tout sauf un animal domestique. Cette espèce de gros tourteau tout velu. Ah, oh, c'est l'incarnation de l'horreur. Si ça se trouve, elle a pondu des œufs partout.
Mon amour, je te promets, on va faire venir la dératisation.
Ah non, mais ça suffit pas. Steph, il faut déménager.
Voilà un Indien dans la ville avec les araignées. Mais quand même, alors, en dehors des arachnides, justement, les insectes, François Lasserre, avec les publications qui se suivent pour montrer vraiment le déclin, hein, qui est très impressionnant. Moins 80% d'insectes en 30 ans, c'était une publication PLOS ONE il n'y a pas si longtemps. Le public a été très sensible d'ailleurs, hein, à cette étude.
Oui.
Ça a beaucoup choqué, au fond.
Oui, finalement, et ça, c'est quand
on
même...
On a cette relation un peu ambivalente, hein, avec les insectes.
Complètement, parce que finalement, ces 80%, c'était presque un désir des humains de se débarrasser des insectes. Ouais. Donc, il y a plein d'humains qui peuvent sauter de joie en disant, oui, enfin, plus d'insectes. Ouais. Mais d'un point de vue statistique, ils se trompent. Et en même temps, grâce à l'abeille domestique, celle qu'on élève dans les ruches, effectivement, il y a... Et puis, 200, presque 200 ou 300 ans de travail des naturalistes qui disent que, parce qu'en fait tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on se dit aujourd'hui, on le sait depuis des centaines d'années, l'impact de l'homme sur les autres espèces, etc. Et finalement je suis très surpris, en tout cas autour de moi, mais ça vaut pas une étude scientifique, d'entendre les gens qui disent, ah là c'est la catastrophe, les insectes disparaissent. Mais c'est vrai que quand même, s'ils disparaissent, c'est parce qu'on a voulu qu'ils disparaissent, c'est-à-dire que c'est notre façon d'occuper les terres. Alors à la fois ils mangent nos cultures parfois, et en plus quand on arrive quelque part, on n'a pas tellement envie d'accueillir les autres. J'appelle les autres, tous les animaux non humains, et donc on fait la même chose. Donc tous ces livres que je fais, comme par exemple celui sur la maison, c'est vraiment est-ce que vraiment on peut pas cohabiter un peu sur Terre? Parce qu'en fait tout le monde se dit, oui moi j'aime bien les animaux mais pas chez moi. Donc c'est pas chez moi dans ma maison, c'est pas chez moi dans mon jardin, c'est pas chez moi dans mon champ quand on est agriculteur, c'est pas chez moi sur mon siège social quand je suis un chef d'entreprise, etc., etc. Et donc finalement, comme toutes les terres sont privées, tous ces animaux non humains n'ont plus de place.
Monsieur Poirier, est-ce qu'il y a un entomologiste dans votre dictionnaire des scientifiques français avant d'accueillir François Lasserre? Bien sûr, dans quelques années.
Il y en a bien sûr plusieurs, en particulier celui que tout le monde connaît, Jean-Henri Fabre, l'homme qui a décrit avec tant de passion et de romantisme et parfois d'une légère imprécision la vie des animaux. Enfin, c'était plus un ethnologue des insectes, me semble-t-il, qu'un véritable entomologiste.
François Lasserre.
Et vous savez que Fabre, donc c'était il y a un certain temps, il a passé du temps à côté des insectes, à les regarder, à noter tout ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire il a passé un temps fou, des heures et des heures, et aujourd'hui personne n'est payé pour faire ça, et donc les écrits de Fabre sont toujours d'actualité. Si on veut savoir comment se comporte telle abeille solitaire, et on peut retourner dans les vieux écrits de Fabre.
Ah oui, c'était un remarquable observateur de la nature, c'est certain.
Et on peut lire en attendant Les petites bêtes de la maison et de la chambre, avec Jean Pourfraise pour les dessins. François Lasserre, s'est publié aux éditions La Salamandre, 50 antisèches pour parents en détresse. Dans un instant, Julia Marche, la fille pas sympa, dit-elle, la vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste Asperger.
au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, désaccord à Matignon. RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un premier mai sans raison. Nos amours se tirent une balle et la cohabitation. Au départ, odeur de gaz et de poudre. Les matraques à Saint-Bernard, j'ai décidé de dissoudre. Au départ, c'est tout pluriel. 35 heures et ça repart, c'est les mariages arc-en-ciel. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre de canon. Nos amours qui se défilent, fin de cohabitation. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre de canon. Nos amours qui se défilent, fin de cohabitation. Au départ, un homme, une rose à la main. Au départ, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Au départ, la lettre à tous les Français.
Et c'est Alex Beaupin, au départ.
Le club sur France Inter.
On accueille cet après-midi également dans notre club Julia March. Vous êtes auteure, blogueuse, vous enseignez aujourd'hui l'espagnol dans un collège et vous publiez La fille pas sympa, sous-titrée La vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste Asperger aux éditions Ceramis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement ce parcours a été chaotique jusqu'à l'âge de 25 ans finalement, jusqu'à cette période où vous avez été diagnostiquée, qui a tout changé pour vous quand même.
Exactement, ouais. C'est vers l'âge de 25 ans que j'ai été diagnostiquée autiste Asperger, et c'est comme la dernière pièce du puzzle qui venait expliquer un parcours plutôt chaotique, c'est le mot.
Mais c'est terrible parce que quand on vous lit, ce sont des années d'errance au fond, avec des incompréhensions pour vous-même sur ce qui vous arrive, sur la façon dont vous ressentez la société qui vous entoure, et puis ce jour où finalement vous allez sur internet et vous comprenez qu'il y a ce syndrome d'autiste Asperger.
J'ai pas tout de suite accepté cette condition. Je trouvais que c'était un peu farfelu d'utiliser le mot autisme, parce que tout ce que j'avais lu, tout ce que je savais sur l'autisme jusqu'à présent, voilà, c'était l'autisme canaire, ça affectait les enfants, et j'avais du mal à m'approprier ce terme, même si effectivement les critères diagnostiques me parlaient.
Oui, et c'est d'autant plus difficile que les témoignages sont souvent ceux de garçons en plus, hein. L'autisme Asperger pour une fille est beaucoup moins fréquent.
Oui. On a des comportements d'évitement, on va plus se cacher, se fondre dans la masse, notre socialisation est différente, donc on va avoir, oui, effectivement, on va avoir peut-être des intérêts spécifiques plus acceptables socialement.
C'est ça. Donc ça se verra moins ?
Ça se verra moins, parce qu'on est très doué pour se cacher.
C'est vrai. C'est une stratégie de dissimulation permanente, au fond ?
C'est une stratégie de survie,
ouais.
Surtout. Oui, on apprend très vite que dès que on est un peu différente des autres, il faut pas le montrer, il faut le cacher, il faut imiter. Donc on observe nos copines. Si on a le malheur de copier les comportements d'un garçon, on nous remet tout de suite dans le droit chemin.
Ouais.
On nous dit que c'est pas acceptable.
Donc c'est un témoignage important sur ce handicap invisible et sur ce décalage qu'on peut ressentir quand on est dans cette peau-là, avec ce langage que vous décrivez, hein, ce langage des autres au fond qui n'est pas le vôtre.
Exactement. On dit souvent, alors je ne sais pas si c'est des études qui le prouvent, je ne suis pas experte en la matière,
mm-hmm.
mais on dit que plus de 60% de la communication passe par le langage non-verbal. Alors c'est une grosse partie qui n'est pas saisie par les autistes.
En c'est
tout
vrai.
Cas, voilà, on a beaucoup de difficultés et même si on essaye de l'apprendre, de l'apprendre comme on apprendrait une leçon à l'école, évidemment, chacun a son propre langage non verbal, donc on va se tromper,
ouais.
C'est quelque chose d'insaisissable.
Ça reste toujours une difficulté pour vous ?
Ah oui, ouais. Oui, complètement. Oui.
Énormément de situations donc où. Vous avez du mal à comprendre au fond ce qui est exprimé quand on n'est pas dans le verbal.
Bah, si on fait des sous-entendus, si on attend quelque chose de moi sans l'exprimer verbalement et de manière mm-hmm. explicite, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre à l'attente de la personne.
Pourquoi ce titre, La fille pas sympa ?
Alors, au début, c'est le titre de mon blog. Au début, je l'avais pas appelé comme ça.
Mm-hmm.
J'avais pas d'idée. J'avais mis Chasperger parce que je trouvais ça rigolo, voilà. Et puis, dans les commentaires, souvent, on me disait, oh là là, qu'est-ce que t'es pas sympa. Et aussi dans la vie de tous les jours, mon attitude dérangée à certains moments. Et on me renvoyait souvent le fait que, quand même, j'étais pas sympa.
Oui.
Donc, je me suis dit, bon, je vais assumer, voilà.
Ouais. Pas sympa, c'est quoi ? C'est être aussi dans sa bulle ? C'est avoir du mal à vivre avec les groupes, par exemple ?
Pas forcément, c'est ne pas chercher à plaire à tout prix.
Mm-hmm.
Ne pas avoir cette attitude complaisante qu'on attend parfois, surtout chez les filles, chez les femmes. C'est ne pas... L'interlocuteur, il le perçoit quand on ne cherche pas à lui plaire, à le brosser dans le sens du poil. Donc c'est ça qui nous fait défaut aussi souvent les autistes.
Ce livre est préfacé par Julie Dachaise, auteure de La différence invisible. C'est une très bonne amie à vous.
Oui, je la salue d'ailleurs.
Voilà, et on va entendre sa voix puisque Lucie Sarfati, vous avez rencontré d'ailleurs toutes les deux à Nantes en l'occurrence. C'est une séquence qu'on va entendre où elle s'exprime sur sa façon de détourner certains problèmes de langage avec les autres.
Stratégie de communication. Si un inconnu entame une conversation informelle avec moi à un moment inattendu, je dois activer le mode compréhension des échanges entre bipèdes. Rencontre avec ma voisine ce jour, sur le palier, alors que j'allais sortir mon petit chien Popeye. Elle, bonjour, comment allez-vous ? Moi, ça va bien. Elle, votre petit chien, comment ça va ? Oh bah il a hâte d'aller dehors, hein ? Moi, ah oui, il a hâte d'aller dehors. Elle, il connaît le chemin. Moi, ah oui, ça, on peut dire qu'il connaît le chemin. Elle, bon après-midi. Moi, bon après-midi. Voilà un parfait exemple de la manière dont je communique avec quelqu'un dans le cadre d'un échange. Bref, quand je n'ai rien de particulier à dire, en écolalie. Je répète instinctivement tout ce qui m'est dit, en agrémentant un peu de « ah » et de « oui » pour apporter une touche personnelle. Et le pire, c'est que cette méthode du perroquet fonctionne à merveille. Je me suis sentie gourde, mais cette voisine, elle, n'y a vu que du feu.
Voilà, la stratégie du perroquet. Est-ce que c'est une stratégie que vous employez également, Julia, ou pas ?
Ah oui.
C'est vrai.
Alors, d'une manière scientifique, on appelle ça l'écolalie.
Oui,
on répète.
Ça. On vient d'entendre le terme. Ouais, ouais.
C'est ça. On peut aussi répéter dans la tête. Par exemple, il y a des répliques de films qui restent dans ma tête et qui tournent, qui se répètent dans ma tête. C'est pas dérangeant, mais mmh. elles reviennent souvent, j'y pense. Des phrases aussi que je me dis, tiens, ça c'est bien dans cette situation, quand je sais pas quoi dire, je vais dire cette phrase que cette personne a dit ou que j'ai lue. On a comme une base de données, en fait, qu'on utilise. Et aussi, des petits bruits. Quand quelqu'un me parle, je sais que je pense de manière assez consciente, je me dis, ah là, il faut que je fasse mm-hmm.
Mm-hmm.
Ah oui, oh. Voilà.
Et donc, on y voit que du feu, hein, quand on discute avec vous.
C'est peut-être plus agréable que de parler à une pierre qui
ne ouais.
va pas réagir et qui va vous regarder fixement.
Ouais. Il y a ce parcours avec votre famille, témoin de Jéhovah, et puis ensuite cette arrivée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce parcours, là on voit vraiment l'errance et les difficultés, avec une période qui était quand même très difficile pour vous. Ça a été beaucoup de déprime aussi quand même intérieure. Hein.
Oui, même de dépression, je parlerais ouais. de dépression, plus que de déprime.
Oui. Et donc ce moment où, effectivement, vous avez pu sortir de ça, qui était extrêmement long quand même.
Oui, ça a duré des années.
Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à diagnostiquer aussi bien ce handicap ?
Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais moi-même pas consciente des difficultés. Quand j'étais une jeune adulte, je pensais que tous les problèmes que j'avais eu auparavant étaient du fait que j'avais été élevée chez les Témoins de Jéhovah. Mmh. Ensuite, je me suis rendu compte que non, c'était pas ça. C'était peut-être un manque de maturité. Peut-être que j'étais en retard sur le reste de la moyenne. Mmh. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans l'âge, je me suis rendu compte que non, c'était toujours les mêmes situations qui revenaient. Et parfois, des situations que j'avais vécues à 6 ans se reproduisaient, mais dans la version adulte.
Un de vos sujets de réflexion aujourd'hui, c'est justement la question du genre au sein de l'autisme.
Oui, bah, ça me
concerne. C'est un sujet de recherche pour vous ?
De recherche individuelle, oui. J'ai universitaire aussi. Évidemment, ça me concerne. Donc, je vais avoir un regard là-dessus. Je ne vais pas avoir le même regard sur l'autisme qu'un garçon, par exemple.
Ouais. Il y a des recherches déjà, des travaux qui ont été menés sur cette question ou pas ? Ou c'est complètement laissé de côté pour l'instant et on a besoin précisément d'avancer scientifiquement ?
Alors, je crois qu'il y en a aux États-Unis. Mmh. Peut-être que Julie en parle dans sa thèse, Julie Dachez. Moi, je ne suis pas du tout au fait des publications sur l'autisme. Hein. Ouais. Je sais qu'il y a un livre qui a été publié sur la question de conseils pour l'entourage qui vit avec des femmes Asperger. Mais je l'ai trouvé assez essentialiste d'un point de vue, considération des femmes. Très centré sur les relations hétérosexuelles. Mmh. Et en fait, toutes les femmes autistes ne sont pas hétérosexuelles. Voire, il y a aussi des femmes trans qui sont autistes. Donc voilà, on n'est pas toutes dans le même moule.
Ouais. Aujourd'hui, donc, vous enseignez dans un collège, l'espagnol. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour vous de vous adresser à une classe avec des élèves qui vous font face ?
C'est pas ça la difficulté, c'est surtout le bruit. Quand plein de jeunes sont réunis dans une salle de classe, ça fait du bruit. Mmh. Et parfois, des petits bruits que personne n'entendrait. Moi, je les entends, j'entends tout. Quand ils bavardent au fond de la classe, je les entends, j'entends ce qu'ils disent.
Et c'est très perturbant pour vous ?
C'est envahissant, oui. Alors, j'essaye de gérer au mieux. Ça va, j'arrive quand même à enseigner, à les faire travailler. Il y a aussi la gestion du temps. Il faut savoir gérer son temps, donc je chronomètre les activités. Mmh. Voilà, tout est calculé, préparé à l'avance. Et s'il y a des imprévus, ils sont maîtrisés.
Ouais. Est-ce qu'ils savent que leur professeur est autiste ou pas ?
Non.
Non ? Ils pourraient le savoir en écoutant cette antenne, ça ne vous embête pas ?
Si, ils le savent, ça ne me dérange pas, mais ouais. Je ne leur ai pas dit. Je ne voyais pas l'intérêt.
Vos collègues le savent ?
Certains.
Ouais.
Certains. Oui.
Donc on peut vivre très bien finalement et s'intégrer facilement ou pas ?
Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que les gens perçoivent qu'il y a quelque chose quand même. Et cette fille, elle a quelque chose de bizarre. Peut-être des attitudes, des comportements, des phrases, je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi qui vais tout leur révéler.
En tout cas, on peut lire votre parcours chaotique et turbulent et drôle aussi. On peut s'amuser en vous lisant. Celui d'une jeune autiste Asperger s'appelle La fille pas sympa. Et vous publiez cet ouvrage, Julia March, chez Céramis. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler des scientifiques français qui font l'objet d'un dictionnaire.
Spleen élégant, le blues enchanteur, il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Comme toujours, ça passera, ça va, ça. Je coule avec toi, viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passe. sera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira. Toi et moi, viens, je t'emmène au Palladium. On boira du rock'n'roll sur des vieux Italacum. Flamme éternelle, pluie violette, un gros taxi jaune avant.
Palladium avec la voix de Brigitte à l'instant, aidée Brigitte en l'occurrence.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Et dernier invité de ce club, Jean-Pierre Poirier, vous êtes docteur en médecine, historien des sciences et vous publiez avec Christian Labrousse La science en France, et c'est un dictionnaire biographique des scientifiques français de l'an 1000 à nos jours. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Est-ce que c'est le premier dictionnaire du genre ou pas?
Non. Au XIXe siècle, c'était même une chose assez courante. Il y a trois grands dictionnaires qui ont laissé une trace dans toutes les mémoires, le Michaud, le Hoefer et le Grand Larousse. Mmh. Mais depuis 1850, plus rien.
Oui.
Il nous a semblé quand même que ça représentait une lacune grave et que nous avons tenté de combler.
Oui. L'an 1000, c'était vraiment votre point de départ? Il aurait pu être antérieur ou pas?
On aurait pu, oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs deux ou trois personnages un peu antérieurs, mais enfin, on a pris comme point de départ Gerbert d'Aurillac.
Mais alors, qui était-il, ce Gerbert d'Aurillac? Sylvestre II. Alors déjà, ça nous dit quelque chose, parce qu'il avait deux noms.
C'est un pape. Ouais. C'est le premier et dernier pape français.
Oui.
Et il a vécu, il est mort en 1003.
Ouais.
Donc,
et il était scientifique?
Et absolument. C'était un jeune moine de dans une abbaye bénédictine d'Aurillac. À l'occasion de son passage, un jeune aristocrate italien l'a repéré, lui a trouvé des qualités intellectuelles intéressantes, et l'a pistonné auprès d'un de ses amis évêques à Cordoue.
Ah oui, il a été bien pistonné, voilà. Là, pour le coup. Hein.
Et à Cordoue, le jeune homme a découvert la science arabe et la science perse véhiculée à travers les ouvrages arabes. Il a passé deux ou trois années déguisé en musulman dans les bibliothèques de Cordoue, et il a appris les rudiments de l'algèbre, de l'arithmétique et de la géométrie. De là, il est parti à Rome, où il a passé 25 ans à faire de l'enseignement, et il a publié plusieurs ouvrages, un traité de la multiplication, un traité de la division, un traité de la sphère, un traité de géométrie, et il a inventé un abaque, qui était l'ancêtre de la machine à calculer. C'était une sorte de règle graduée sur laquelle on déplaçait des plots pour faire des multiplications.
Pas mal, oui.
Oui, pas mal.
Beau CV, ouais.
Oui, alors en plus, il a été ensuite nommé précepteur des enfants du roi de France, et il est devenu le conseiller, le secrétaire du Capet.
Ouais.
Et il a été nommé évêque de Reims, il est donc devenu un personnage extrêmement influent, mais il était un peu tard, car on était déjà en 993. Il a fait de grands efforts pour inculquer aux Français la numération décimale, le zéro, quelques règles rudimentaires de calcul et d'arithmétique, mais malheureusement il est mort en 1003 et son influence finalement a été tout à fait faible, et il a fallu pratiquement attendre le 15e et le 16e siècle pour que les Français évolue un peu vers le monde scientifique.
Alors justement, il est en couverture de ce dictionnaire auprès d'Émilie Duchâtelet, auprès de Gustave Eiffel, de Louis Pasteur, de Marie Curie, de Jean Tirole, alors qui est toujours en vie évidemment, prix Nobel d'économie. Comment on travaille sur un ouvrage aussi complexe finalement ?
Mais la plus grande difficulté, ça a été d'identifier les personnages.
Oui.
Une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est l'Académie des sciences. Car l'Académie des sciences, non seulement accueille en principe les meilleurs scientifiques, mais en plus, éditait jusqu'à ces dernières années des dictionnaires biographiques rédigés par les auteurs eux-mêmes, ce qui les rend parfois un peu difficile à comprendre, parce que quand il s'agit de physique quantique ou de biologie moléculaire, les auteurs sont pas toujours extraordinairement explicites et pédagogues, mais n'empêche que ça constitue une base incroyablement précieuse.
Mais c'est quoi les critères finalement de sélection pour vous, pour faire entrer un scientifique français contemporain par exemple dans votre dictionnaire ?
Alors, ils sont un peu subjectifs, mais l'essentiel c'est quand même que le personnage puisse être connu à travers ses écrits. Il faut qu'il ait publié quelques ouvrages de fond que l'on peut lire, étudier, comparer et réexaminer de façon critique. Si en plus il est reconnu par ses pairs et qu'il appartient à des instances scientifiques irrécusables, ça conforte
donc,
sa position.
Donc on y retrouve Cédric Villani, Françoise Barré-Sénoussi, Edith Heard, Hubert Reeves, évidemment, parmi les contemporains.
Madame Uzin, notre ministre de la Santé, et beaucoup d'autres personnages dans l'actualité.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, dans ce dictionnaire ?
Ben oui, enfin...
Alors attention, j'aime bien quand vous dites bien oui, parce qu'on sait, il y a beaucoup de femmes dans ces... Alors elles sont combien sur 3000 noms ?
Elles sont 120.
Voilà, et pour vous c'est beaucoup, dites donc.
Oui, c'est beaucoup, parce qu'il faut tenir compte, encore une fois, du fait que extraordinairement peu de femmes avaient accès au monde scientifique jusqu'au 19e siècle. Pratiquement, les 120 que j'ai identifiés ont toutes vécu dans les 150 dernières années.
Ouais. Enfin, vous trouvez ça beaucoup, non, franchement ?
Non, je dis beaucoup...
C'est très très peu quand même.
Mais prenez un dictionnaire américain par exemple, le Gillespie, le Dictionary of Scientific Biography, vous en trouverez 12 femmes.
Ouais.
Je trouve que en avoir identifié 120, c'est déjà admirable.
Qui sont les scientifiques que les Français sont capables de vous citer à votre avis, monsieur Poirier ?
Oh, en général, ce sont les principales vedettes, c'est-à-dire Pasteur, Descartes, Marie Curie, ça va jamais très très loin.
C'est compliqué, hein.
Oui, oui. Ouais. Mais les Français sont très mauvais en histoire des sciences, il faut le savoir.
Et c'est aussi l'idée de ce dictionnaire, d'ailleurs. C'est de leur faire aimer un peu plus les sciences.
Absolument. Ouais. De leur montrer que une biographie de scientifique, c'est pas ennuyeux, c'est au contraire tout à fait intéressant. Si on arrive à suivre son parcours et à comprendre ses motivations et à comprendre en quoi ce qu'il a fait était intéressant. J'ai des personnages que personne ne songerait à citer, comme Appert, Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve, ou Joseph Rémy, l'inventeur de la pisciculture. Si vous mangez des huîtres aujourd'hui au restaurant, c'est grâce à lui.
Bon, on aurait une pensée pour lui, alors.
Absolument. Donc, c'est ce qui m'a paru le plus amusant dans le bouquin. C'est ces personnages dont la contribution a été déterminante, qui ont plusieurs fois risqué de rester méconnus et qui, par des concours de circonstances divers, ont réussi quand même à transmettre une idée qui a été reprise et exploitée souvent par d'autres.
Voilà, c'est l'occasion de les découvrir. C'est français, justement.
Ce sont des Français.
Uniquement français.
Uniquement. Enfin non, soyons précis, j'ai un certain nombre d'étrangers ayant résidé et vécu et travaillé en France.
C'est pour ça qu'ils
figurent
là.
Comme von Humboldt, comme Huygens, comme un certain nombre de scientifiques italiens. Mais je le précise à chaque fois, qu'ils ne sont pas là en tant que Français, mais pour leur contribution à la science française.
Ça s'appelle « La science en France, dictionnaire biographique des scientifiques français de l'an 1000 à nos jours » et c'est publié chez Jean-Cyril Godefroy. Merci Jean-Pierre Poirier et merci à vous tous.
Merci.
Toutes les références des ouvrages sont sur le site de La Tête au Carré.